Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 27 février 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Tu conduis cette semaine une Hyundai, tu nous en parleras, une Hyundai hybride, tu nous en parleras la semaine prochaine. Ouais. Mais on va commencer par parler de l'annonce qui a été faite sur la IONIQ 5 de Hyundai cette semaine. Un véhicule électrique qui, à mon sens, est très rafraîchissant.
Oui, effectivement. Donc, la gamme IONIQ qui se bonifie pour 2022. Un dévoilement qui s'est fait attendre. Ça aurait dû se faire plus tôt cette année. Ça a été repoussé. Mais finalement, c'est cette semaine que ça s'est passé. Donc, comme tu mentionnais, un véhicule 100% électrique à 4 roues motrices en plus, dont le format reste un mystère, si on veut, parce que à regarder les photos, on croirait à un véhicule...
À une Golf,
oui. Donc, une voiture compact à 5 portes, mais quand on regarde les données techniques, ben, on s'imagine que c'est un petit peu plus grand,
ouais.
Parce que, ben, juste pour donner une idée, l'empattement est plus grand que celui du Palisade, par exemple, pour rester chez Hyundai. Donc, ça va être spectaculaire à voir. Pour ce qui est des données... Des données d'autonomie, ben c'est celle de l'Europe, donc ça sert à rien de les mentionner. Il va falloir attendre un petit peu plus tard. Il y aura deux versions de batterie, donc 58 kWh et 72,6 kWh. Et c'est ça. Pour ce qui est de l'autonomie, les prix, tout ça, on va devoir patienter encore. Et Hyundai qui a la volonté de créer une sous-marque, hein, avec IONIQ, parce que même pour le moment, il y a confusion, parce que IONIQ en ce moment, c'est trois modèles, donc hybride rechargeable, électrique. Donc on a un véritable désir de commercialiser des véhicules électriques, mais on est en train de revoir un peu la structure derrière tout ça.
Confusion comme il y a eu avec Genesis, parce que ouais. Genesis est un modèle, c'est devenu une marque.
C'était plus qu'un modèle, c'était ça aussi. Qui n'a pas aidé à faciliter les choses.
Non, ça a été vraiment confusing, comme disent les Anglais.
C'était confusant.
Voilà, t'as tout compris. Bon, Mitsubishi, on a dévoilé l'Outlander 2022 il y a une semaine ou deux à peine, mais on recevait un communiqué, à mon sens, d'une totale inutilité, puisque c'est une info qu'on avait déjà. L'Outlander PHEV 2021 qui reçoit une batterie légèrement plus grosse et un nouveau ancien moteur.
Oui, effectivement. Donc, c'est rare qu'on parle deux semaines de suite du Mitsubishi Outlander, mais la semaine dernière, on parlait du modèle à essence qui lui passait à la nouvelle génération. Pour le PHEV, donc l'hybride rechargeable, c'est une légère amélioration.
En fait, ça demeure le même véhicule.
Exactement. Donc, le look un peu spectaculaire qu'on avait avec celui qu'on a présenté la semaine dernière, on n'est pas là du tout. Là. Esthétiquement, c'est le même véhicule, mais comme tu le mentionnais, le moteur à essence, le 4 cylindres de 2 litres, qui n'était pas très moderne, laisse sa place à un autre 4 cylindres tout aussi peu moderne de 2,4 litres. Et donc, quand on va rouler avec la motorisation à essence, ben on va peut-être souffrir un petit peu moins. Et sinon, ben la capacité de la batterie, elle passe de 12 à 13,8 kWh. Donc,
on gagne 4 km d'autonomie.
On gagne 4 km, tu l'as si bien dit. Donc, de 35 à 39. Hein, il n'y a pas de petit gain, Antoine.
Non, exactement. On a vu, juste avant d'entrer en onde, des photos espions de ce qui pourrait être une réponse de Chevrolet au Ram TRX et au Ford F-150 Raptor. Donc, des photos espions du Chevrolet Silverado ZR2.
Oui, effectivement. Donc, certains sites américains ont aperçu comme ça ce qui pourrait être un rival au Ram 1500 TRX, au Ford F-150 Raptor. Donc, on le voit surélevé, on le voit avec des pneus à profil très, très, très agressifs. on remarque que le capot est bien enveloppé, bien couvert. Donc, est-ce qu'on va avoir là des accessoires de hors-route ou une trappe d'aération comme c'est le cas pour le Ram, par exemple? On n'en sait encore rien. Sur le plan mécanique, on en discutait hors d'onde de ça aussi. Quelle stratégie on va adopter? Est-ce qu'on va viser le Raptor actuel en gardant une puissance modeste, ou on va mettre le V8 de 6,2 litres suralimenté et en faire une véritable machine pour arracher l'asphalte et la boue? Ça reste un grand mystère, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on réagit à ce segment-là qui fait couler beaucoup d'encre et qui cumule les visionnements sur Internet.
Peut-être que le moteur de la CT5V Blackwing aussi pourrait être intéressant là-dedans. Enfin, on ne sait pas.
Donc, ce sera à suivre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Tu as écrit cette semaine, Antoine, une chronique dans le Journal de Montréal et sur le site du Guide de l'Auto sur la fiabilité des voitures hybrides, parce qu'on te questionne, et je dis on te
encore
questionne, mais on nous questionne toute la bande sur la fiabilité des moteurs hybrides, même si ça fait une vingtaine d'années qu'on est débarqué avec cette technologie-là. Beaucoup de gens sont réticents à faire le saut d'un moteur à combustion traditionnel vers une motorisation hybride.
Bon, et là, je fais ça rapide, là, le temps de vous mentionner deux choses, en fait, plusieurs choses. La batterie la technologie hybride d'un véhicule hybride, donc comme une Prius, comme une Camry, chez Toyota, la garantie est maintenant à 10 ans, 240 000 km. L'ensemble de l'industrie offre minimalement une garantie de 8 ans ou 130 000 km sur les batteries, ce qui est une garantie supérieure à ce que vous allez retrouver à peu près partout dans l'industrie au niveau des motorisations à combustion. Deuxièmement, moi, j'ai voulu faire enquête afin de savoir est-ce qu'on en vend des batteries de véhicules hybrides?
Autant
dans le neuf que dans l'usager. Alors, chez Toyota, j'ai posé la question. Toyota m'a répondu, bon, ben une batterie de Prius, par exemple, de remplacement, on va vendre ça à peu près 3 500 $ neuf. Mais on n'en vend que très rarement. On en tient des fois en inventaire. Oui, c'est possible que certaines batteries fassent défaut, mais si on en vend, c'est souvent dans des cas de véhicules accidentés.
Ouais, où il y a que des batteries qui sont arrivées en fin de vie.
Voilà, exactement. Du côté du marché après-vente, donc des compagnies indépendantes comme Cardone, comme Dorman, qui fabriquent des batteries de remplacement, bien, on va vendre ça un peu moins cher. Là, on est dans le 2 500 $ versus un 3 000 $ chez le constructeur. L'écart n'est pas si grand que ça. Il fut une époque où c'était vraiment, vraiment plus grand, mais on n'en vend tellement pas que finalement, c'est pas un modèle d'affaires viable et il n'y a pas grand monde qui va tenir ça en inventaire parce que ça ne donne rien. Si vous voulez en commander une demain matin pour x, y raison, oui, vous pouvez l'avoir, c'est disponible. Vous allez payer, disons, entre 2 500 et 4 000 selon le modèle de véhicule que vous conduisez. Là. Mais c'est disponible. Et je me suis dirigé ensuite du côté de chez Kenny Leupold, qui est un des plus gros centres ou réseau de centres de recyclage au Québec pour ce qui a trait des véhicules en fin de vie. Eux, évidemment, ont récupéré plusieurs dizaines de milliers de véhicules hybrides au fil des années. On a toujours empilé les batteries sans même les vendre. Et moi, j'ai posé la question, mais moi, si je veux m'acheter une batterie demain matin, combien ça coûte? On n'a même pas d'étiquette de prix pour ça. On refuse d'en vendre une au public parce que...
Il n'y a pas de marché.
Il n'y a pas de marché. Et gérer les batteries pour une entreprise comme ça, c'est tout simplement une perte de temps.
C'est trop niché.
On préfère les acheminer à une entreprise spécialisée qui, elle, va les recycler dans les règles de l'art ou va leur donner une seconde vie. Donc, c'est ce qu'on fait du côté de chez Kenny Leupold. Et j'imagine que pour la majorité des centres de recyclage, c'est la même chose. Il n'y a pas de marché. Preuve que c'est une fiabilité qui est intacte. Je ne vous dis pas que ça arrive jamais,
non.
Ça peut survenir, mais en termes de pourcentage, c'est rien à comparer avec un moteur à combustion ou une transmission. Alors, à la question, est-ce que vous devriez vous acheter un véhicule hybride demain matin? Soyez sans crainte, c'est plus fiable que n'importe quoi d'autre que vous allez acheter comme technologie.
Donc, il n'y a pas d'inquiétude raisonnable à y avoir.
Exactement. Mais vous pouvez quand même laisser tomber un Saturn Vue hybride si jamais vous voyez ça sur le marché d'occasion. C'est peut-être pas le meilleur parti.
Le guide de l'auto. avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Parlant d'hybride, Germain, maintenant, toi, t'as fait l'essai cette semaine du Ford Explorer hybride que j'avais conduit il y a quelques semaines et que j'avais pas détesté, même si sur le plan de la consommation, c'est rien d'extraordinaire.
Ben voilà, j'avais bien entendu tes bons mots, tes mots raisonnables à son sujet, ce qui a peut-être placé la barre un peu trop haute dans le cas de l'Explorer hybride, parce que de mon côté, on peut pas dire que j'ai été épaté par ce véhicule-là, et t'as mentionné en ouverture la consommation. Alors, si on prend quelques instants pour regarder ça, j'ai parcouru presque 700 km avec le véhicule, donc j'ai roulé pour la peine. Et à la fin de tout ça, 10,9 litres, encore une fois, la virgule, je la mentionne, 10,9 litres au 100.
Pour ne pas dire 11
litres au 100 km. Si on regarde ce que Ressources naturelles Canada présente, on est à 9,6. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, par exemple, pour le 4 cylindres turbo de 2,3 litres, on est à 10,3 selon Ressources naturelles Canada. Donc, l'écart est minime, à mon avis. Donc, est-ce que ça se justifie? C'est dur à dire. Et on a une approche qui est totalement différente de Toyota avec l'Highlander, par exemple, où là, on mise totalement sur l'économie d'essence.
En fait, l'hybridation, dans le cas de l'Explorer, c'est une puissance accrue, ouais, pour une consommation équivalente, ouais, à celle d'un petit V6 ou d'un 4 cylindres.
Ouais.
Mais effectivement, vous achetez pas ça pour avoir le véhicule qui consomme
non,
le moins.
Et c'est important de le dire. Là,
et l'autre affaire, c'est qu'on a l'impression que Ford veut pas en vendre parce qu'on l'offre uniquement dans une version limited qui est quand même assez chère. On l'offre aussi dans...
C'est 54 000 $.
Bon. Et on l'offre aussi limited, sur des véhicules de police.
Oui, et un limited sans motorisation hybride, donc une motorisation conventionnelle, est à 49. Donc, faire le saut vers l'hybride, c'est quand même assez coûteux. Je suis pas certain que ça vaille la peine. Dans l'ensemble, c'est assez peu convaincant. Transmission automatique à 10 rapports qui donne des coups continuellement. La transition entre l'électricité et l'essence, c'est pas toujours en douceur, c'est pas toujours, ouais, subtil. Donc, non, je n'ai pas été convaincu de mon côté avec l'Explorer hybride.
Moi, en fait, j'ai surtout apprécié le fait qu'on ait une certaine puissance.
Oui, ça, j'ai pas le choix de l'admettre.
Et qu'on soit pas à 13 ou 14 litres, ouais, au 100 comme avec un Explorer régulier.
Absolument.
À moteur V6.
Ouais, donc,
c'est quand même un véhicule très solide.
Oui, les performances sont au rendez-vous, ce qui n'est pas toujours le cas pour un véhicule hybride, alors qu'on mise souvent sur l'économie de carburant. De ton côté, GMC Sierra à moteur diesel.
Oui, j'ai réessayé le GMC Sierra moteur diesel et c'est drôle parce que je l'ai fait dans un contexte où il y avait des gens qui faisaient de la construction à la maison et les deux types qui se présentaient chaque matin, un conduisait un Ram 1500 noir à moteur MI, l'autre conduisait un Ford F-150 à moteur 5 litres.
Personne
noir,
n'avait de Titan?
Et moi, non, personne n'avait de Titan et moi, je conduisais un GMC Sierra noir. Et là, évidemment, pas besoin de te dire que les discussions étaient animées chaque matin parce que on parlait de camionnettes. Bon, mon père est plus fort que le tien, etc., voilà, etc. C'était très drôle. Mais j'ai utilisé le GMC Sierra à différentes fins cette semaine pour transporter des trucs, pour faire de la grande route. C'est un moteur exceptionnel, le diesel qu'on a là-dedans, qu'on peut aussi retrouver dans les Tahoe, Suburban, Yukon, Escalade.
6 cylindres en ligne, hein, mentionnons-le.
6 cylindres en ligne, un couple extraordinaire. C'est 460 livres-pieds, si ma mémoire est bonne, ou 480.
On
est dans ces sphères-là. Mais c'est un moteur l'hiver, dans des conditions froides et vraiment pas optimales, qui consomme à l'aige là, autour de 9,5 litres au 100.
Ouais.
Alors, vous êtes à moins de 9 litres en été.
Pour une camionnette pleine grandeur.
Pour une camionnette pleine grandeur qui a facilement 9 ou 10 000 livres de capacité de remorquage. J'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est un camion qui est capable. C'est un moteur qui est agréable. On ne sent pas qu'il s'agit d'un diesel à tout bout de champ.
Effectivement, et bon, j'en profite parce que j'ai été à bord de ce véhicule-là aussi cette semaine. Et effectivement, on ne ressent pas les désagréments habituels qu'on pouvait ressentir par le passé. C'est doux, c'est silencieux. Ça se laisse apprécier largement, là.
Et c'est une mécanique qui, je pense, pour quelqu'un qui fait beaucoup de kilométrage vaut vraiment la peine par rapport à un moteur à essence pour sa consommation d'essence, pour l'agrément que ça procure aussi et parce que c'est capable de remorquer. C'est sûr que le coût initial est plus élevé et que les coûts d'entretien de cette mécanique-là, sont plus élevés. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui roule 15 ou 20 000 km par année, rentabiliser l'achat de ça, c'est pas évident.
Une chose est certaine, si on veut absolument un 6-cylindres diesel dans une camionnette pleine grandeur, c'est un bien meilleur choix que d'opter pour l'éco-diesel, par exemple, chez Ram, là.
Oui, parce que l'éco-diesel, c'est un moteur qui ne va vraiment pas mal, mais qui est quand même un peu plus bruyant et qui n'a pas su prouver sa fiabilité.
C'est ça, on a eu quelques ratés, là.
Mais jusqu'à maintenant, le 6 cylindres en ligne chez GM, ça va bien. On n'a pas eu de gros problèmes majeurs. Même chose du côté de chez Ford avec le Power Stroke 6 cylindres. Alors, c'est des mécaniques qui sont très intéressantes. Sauf que moi, j'ai toujours déploré le fait que chez GM, mis à part les moteurs V8, on n'avait pas grand-chose d'intéressant. Mm. Tu sais, on offre un vieux V6 4.3 litres qui est vraiment, vraiment dépassé.
Bon, je te sens chialeux. On a un 4 cylindres turbo compressé, Antoine. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Mais on n'en vend pas beaucoup de ces mécaniques-là et on comprend
et avec
pourquoi.
Raison,
par contre, le diesel, pour moi, c'est vraiment une carte intéressante pour GM, GMC ou Chevrolet, qu'importe. Ouais. Et c'est un moteur qu'il faut considérer, évidemment, pour celui qui roule. Puis dans un marché où on n'est pas tout le temps en train de changer de véhicule aux 20 minutes, parce que évidemment on sait comment ça se passe dans le marché de la camionnette pleine grandeur actuellement, vous achetez un pick-up, 6 mois après, on vous rappelle, ramène ton pick-up, je te reçois dans un autre, on ship ça aux États-Unis. Bon, c'est un marché qui est tellement... c'est la folie furieuse actuellement, mais pour quelqu'un qui veut garder ça à long terme, l'entretenir adéquatement et qui roule beaucoup, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur mécanique.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Germain, s'il y a un constructeur qui est en plein renouvellement ou en plein changement cette année, c'est bien Nissan. Et il est à temps parce que ça n'a pas été une année facile l'année passée pour Nissan. 33% de baisse de vente au pays, ce qui était beaucoup plus en moyenne que l'industrie en général qui a baissé, elle,
de 20%
à 19,7. Parce que moi, j'aime ça nommer des virgules.
C'est bien. Précision, la rigueur, on aime ça. Je suis client.
Et avec nous, pour en parler, le président de Nissan Canada, tout simplement, Steve Millette, qui est avec nous. Bonjour, Steve.
Bonjour.
Bonjour, Antoine. Bonjour, Germain.
Alors, Steve, vous avez connu une baisse de vente assez significative l'année passée. Ça n'a pas été évident, j'imagine, et j'imagine aussi que ça a chamboulé les plans de l'arrivée des nouveaux modèles. Quel bilan vous tirez de cette année-là qui n'a vraiment pas été facile pour vous?
Ben écoute, en termes de performance, vous avez les bons chiffres là. C'est une industrie qui était à la baisse naturellement avec la pandémie. Nissan à l'intérieur de ça, 33% au tout près de baisse. Mais comme vous le savez, l'année passée, c'était aussi l'année de l'annonce de notre plan de transformation, le Nissan Next.
Ouais.
En fait, qui se voit un changement de modèle d'affaires chez Nissan. On sait qu'il y avait un changement au niveau du produit qui s'en venait. Donc, on a tout mis ça ensemble dans notre plan de transformation Nissan Next, en plus d'un changement de culture. Donc, chez nous, ce qui est important, c'est peut-être qu'autrefois, on allait chercher le volume au maximum. On voulait aller chercher tous les types de ventes possibles de l'industrie. Mais là, on axe vraiment sur la valeur et augmenter la valeur de nos produits. Donc, une des activités qu'on a dû faire ou qu'on a dû cesser, c'est les ventes aux compagnies de location à court terme. On a diminué de façon très, très, très significative. Ça a été un des changements importants. Donc, ce qu'on publicise comme chiffre à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, faut pas oublier qu'à l'intérieur de ça, il y a des décisions qui ont été prises justement pour augmenter la valeur de notre marque sur nos produits. Donc, si je prends juste Sentra, par exemple, c'est un modèle qu'on a lancé malheureusement, c'était au tout début de la pandémie, donc c'était assez difficile quand les concessionnaires ont dû fermer boutique. On avait des salles de monde qui étaient complètement fermées au moment même qu'on lançait notre nouveau produit. Mais tout ça pour dire que le momentum a accéléré. Dans le dernier trimestre de l'année calendrier, Les ventes de Sentra sont à la hausse de 30 % dans un segment qui est à la baisse.
Ouais.
Même au mois de janvier, vous savez, chez Nissan, on publicise plus les chiffres mensuellement, on les publicise trimestriellement, mais je peux vous dire qu'on a eu notre meilleure part de marché au détail à vie sur le modèle Sentra. Donc, ce qu'on a mis comme plan de match, je peux vous dire que ça se déroule très bien. Donc.
Évidemment, on comprend de vouloir cesser les ventes au parc, donc aux entreprises de location, parce que ça fait baisser la valeur moyenne des produits. De toute façon, dans une année où les gens étaient plus appelés à voyager, bien, les véhicules de location, il n'y avait plus de demande. Donc ça, c'est un autre problème. Maintenant, pour avoir discuté avec certains concessionnaires, j'ai aussi un peu compris au fil des dernières années que Nissan était très bon dans l'art de remplir les cours de ses concessionnaires, de les surabonder de véhicules. Et ça mettait beaucoup de pression auprès des concessionnaires qui, eux, devaient faire des ventes de liquidation, forcer la vente de certains véhicules parce que l'inventaire était tout simplement trop élevé. Est-ce que ça aussi, c'est une stratégie que vous souhaitez changer? Parce qu'évidemment, ça, en ce qui me concerne, ça a affecté
l'image de marque
et la valeur du produit sur le marché. S'il y a trop de demandes, s'il y a trop d'offres pour la demande, ben on sait ce que ça donne.
Ben écoute, je dirais que c'est une très bonne question. Comme je disais au départ, dans le plan de transformation, on parlait de changement de culture. Et je dirais que ce que tu décris n'est pas arrivé en 2020. N'est peut-être pas arrivé en 2019. On a implanté un système de distribution, là, je vais peut-être dans les détails. Chez nous, on appelle push to pull. Historiquement, c'est vrai que les gens chez Nissan, le siège social, on décidait un peu des primes, du nombre, la quantité, les couleurs et ainsi de suite. Et c'est des modèles qu'on poussait vis-à-vis des concessionnaires,
ouais.
dans des volumes tels qu'ils avaient été établis dans des plans d'affaires. Mais aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est qu'on prend les commandes des concessionnaires. À la virgule près en termes de quantité, les trims qu'ils veulent avoir, les couleurs, s'ils veulent plus du SV, moins de S ou plus de SR, on essaie d'adapter notre plan de production avec les commandes précises des concessionnaires. Donc, on peut pas être plus aligné avec les marchés indépendants parce que chaque marché, même au Québec, ils sont différents d'un marché à l'autre.
Bien sûr.
Donc, je dirais que cette culture d'entreprise-là, elle est vraiment différente. Elle est vraiment changée. Donc, puis en plus, durant une année de pandémie, comme vous le savez, les productions ont été fermées du mois de mars essentiellement jusqu'en début juin. Donc, on a manqué d'inventaire plus qu'on a eu de surplus d'inventaire en 2020. Et pour la quasi-totalité des fabricants, on a aussi les discussions avec les microchips en 2021. Donc, il y a une pénurie de composantes à travers la planète. Ça l'affecte à peu près tous les grands fabricants. Tout ça pour dire qu'on est dans un air où est-ce que les inventaires sont plus serrés. Et nous, c'est notre modèle d'affaires d'avoir, comme me disait un très bon concessionnaire à la Ville de Québec quand j'ai commencé ma carrière, vaut mieux avoir une unité de moins que la demande qu'une unité de plus parce que effectivement ça a un impact sur la valeur
des véhicules. Absolument.
Nissan au Canada, on arrive à tenir son bout du bâton par rapport à Nissan aux États-Unis. Et c'est pas le cas de tous les constructeurs et certains cas sont plus flagrants. Il y a des exemples qui illustrent bien la situation. On avait la Micra au Canada, elle n'était pas vendue aux États-Unis. On a la Sentra à boîte manuelle au Canada, c'est pas commercialisé aux États-Unis. On n'a plus le Titan au Canada, mais on le garde aux États-Unis. Comment on arrive finalement, alors qu'on est 10% par rapport aux États-Unis, comment on arrive à tenir tête à un marché qui est bien plus grand que le nôtre?
C'est vrai, mais vous savez, on est le cinquième marché de Nissan en importance au monde. Donc, on est très important dans l'échiquier global de la compagnie Nissan. On travaille vraiment en étroite collaboration avec... parce que nous, on se rapporte aux États-Unis. En fait, notre siège social, c'est le siège social américain, mais on a toujours cette discussion avec le Japon. Quand ça fait du sens pour notre marché, on défend le plan d'affaires, le modèle d'affaires, et ça fait du sens, on est capable d'amener des voitures comme les Micra, ou par exemple la Sentra manuelle, on trouvait que c'est important pour nous. Sentra SR manuelle, en fait, je voyais ton émission Salut, bonjour, Antoine, ouais. Où est-ce que tu parlais justement de ça, et tu as même souligné là, ce qu'on a fait avec Sentra SR, ouais. Manuel, donc je trouvais ça bien. Mais en fait, on prend le feedback de nos concessionnaires, le feedback des clients, et même votre feedback. Quand ça fait du sens pour notre marché, on regarde le modèle d'affaires, si ça fait du sens, on l'amène chez nous. Et c'est ce qui est arrivé avec certains modèles, et ça va être appelé à continuer. Étant donné qu'on est une division qui est performante pour Nissan dans le cinquième marché en importance, même si on est beaucoup plus petit que nos collègues américains, on est capable de faire des choses avancées pour nos Canadiens.
C'est pas rien du tout, là, cinquième, franchement, c'est intéressant, c'était pas tant.
Oui, puis je pense quand même que les États-Unis sont un peu en avant de
nous. Oui, un peu. C'est pas l'année prochaine qu'on va rattraper les États-Unis, non, entendu, mais d'être en cinquième place, vu la population, vu l'étendue du territoire, c'est considérable.
Oui. On sait évidemment que la camionnette pleine grandeur, et je pense que Nissan s'en est rendu compte, c'est la chasse gardée des Américains. On a un produit qui n'a jamais réussi à percer ce marché-là adéquatement. Il l'a fait un peu plus aux États-Unis, dans certains marchés, notamment la région où il est fabriqué, au Tennessee. Mm-hmm. Là, c'est un produit qui se vend un peu mieux, mais chez nous, ça n'a jamais connu succès escompté. Donc, on a lancé la Serviette cette année en éliminant le Titan de la gamme Nissan. Par contre, le Frontier, c'est une autre chose. C'est une camionnette qui, pour moi, est vitale pour le constructeur Nissan. Nissan qui a été un des premiers à amener une camionnette compacte sur le marché ici. Et on ne s'en est pas nécessairement rendu compte, mais ce véhicule-là a été absent pendant presque 2 ans de notre marché. Et se vendait encore très bien lors de ses dernières années de commercialisation, malgré son âge avancé. Est-ce que ça fait mal de ne pas avoir de Frontier pendant 2 ans? Et qu'est-ce que vous avez comme stratégie pour ce produit-là, qui, à mon sens, est très important?
Très bonne question. Écoute, on est très excités de notre modèle Frontier. Super de beau modèle. Techniquement, ça fait quand même moins de 2 ans. On a vendu du 2019 aller jusqu'à vers la fin 2020. On s'était stocké en inventaire, justement.
Un peu comme la Micra, finalement.
Oui, mais c'est ça. C'était une stratégie. Contrairement à ce que je disais tantôt, dans ce cas-ci, on a voulu se stocker en sachant ce qui se passait. Mais pour nous, l'année modèle 22 de Frontier est excessivement important. C'est un segment, premièrement, qui est à la hausse. Hein? Fait que même si tu as dépassé le marché total, tu as la baisse de 20 %, celui-là, tu as la hausse de 11 %. Et ça continue en janvier et en février. Donc, c'est vraiment un segment qui est appelé à croître. Nous, ça fait, comme tu disais, là, ça fait longtemps qu'on fait ça du Frontier. Ça fait 60 ans d'expérience dans ce type de véhicule. Et là, on va vraiment avoir une gamme complètement renouvelée, hautement technologique. Donc, pour nous, c'est un modèle qui va redonner aux concessionnaires ce qu'on avait besoin en termes de camions. Il y a comme deux types d'acheteurs là-dedans. Hein. T'as les, t'as gens qui sont propriétaires de camions de taille moyenne traditionnelle, des générations X, des baby boomers qui ont très hâte d'avoir le nouveau Frontier. Mais t'as aussi un nouveau segment qui est une population plus jeune, génération X, millénaux, des gens qui aiment le plein air, qui vont avoir des motos, des Sea-Doo, qui ont vraiment besoin d'une camionnette, mais sans être une camionnette pleine grandeur, et qui peuvent bouger n'importe où en ville.
Donc, et qui ne veulent pas un Honda Ridgeline.
Oui, c'est ça.
Entre autres. mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était au mois d'août 2019, à l'époque, on avait encore des grandes rencontres de concessionnaires. Donc, tous les concessionnaires Nissan de l'Amérique du Nord, on s'était réunis à Chicago. On a montré le portfolio quasiment au complet aux concessionnaires. Et celui qui a fait vibrer celui qui a fait le plus vibrer nos concessionnaires, je dirais, c'est celui-ci. Là. C'est vraiment le Frontier 2022.
Avec, on a reproché longtemps, ben en tout cas ces dernières années à Nissan, d'avoir une gamme qui était probablement vieillissante. Là, ça se rajeunit tranquillement avec une nouvelle Sentra, avec le nouveau Rogue, avec le Pathfinder et le Frontier, comme on le mentionnait. Mais sur le plan des mécaniques...
Et le Qashqai, dont on ne peut pas confirmer l'arrivée, mais je pense qu'il va être là quand
mais
même.
Mais ça s'en vient, voilà. donc, on a tous ces nouveaux véhicules-là, mais sur le plan mécanique, c'est très traditionnel. Je m'explique, il n'y a pas il y a pas d'hybride, il y a pas encore moins d'électrique, et il n'y a pas non plus de version de performance. On y va avec une version à motorisation unique. Qu'est-ce qui explique cette stratégie-là?
Ben écoute, deux choses à ta question sur l'âge du portfolio. Vous savez, c'est une industrie qui est très cyclique. En 2020, je dirais que oui, la grande majorité de nos voitures étaient en fin de vie. Et au courant de 2021, on va avoir une salle de monde complètement transformée au bout de cette année. Donc, on va passer à probablement le plus jeune portfolio de l'industrie. En termes de motorisation, c'est sûr que nous, on va étudier de façon indépendante, à savoir quel groupe motopropulseur va rentrer au cœur de chacun des segments. Donc, c'est vrai, on pourrait avoir plus performant ou hybride ou autre, mais pour nous, on veut vraiment rentrer, se concentrer sur le cœur du segment, d'avoir une philosophie de focus et priorisation. Et lorsqu'on regarde, mettons, un véhicule comme Rogue qui est lancé, qui a vraiment un succès incroyable actuellement, qui s'est mérité le prix de la Jack comme utilitaire de l'année pour un utilitaire intermédiaire. Donc, toutes des belles reconnaissances qu'on reçoit. Mais lorsqu'on parle de motorisation, on a aussi un plan en parallèle qui s'appelle Aria, qui va être 100% électrique, qui va être aussi disponible dans le 4 roues motrices. S'il y a une opportunité électrique qui est vraiment notre vision chez Nissan, là, c'est pas les systèmes hybrides, c'est vraiment de passer au mode électrique. On va le voir dans d'autres modèles. Et si on a d'autres annonces à faire dans le futur, on pourra le faire. Mais pour le moment,
vous pouvez le faire maintenant, il n'y a pas de problème.
On vous écoute.
Ouais, j'imagine, mais après ça, on va m'assommer au bureau. Et l'autre chose, c'est que on a aussi une technologie qui s'appelle e-Power, qui n'est pas au Canada, qu'on va étudier pour implantation dans le futur. Mais e-Power, essentiellement, c'est que c'est une motorisation électrique, mais l'alimentation de cette énergie-là se fait par un moteur thermique. Donc, on s'en sert au Japon, c'est la Nissan Note. C'est un véhicule qui va excessivement bien, les parts de marché qui sont incroyables pour nous au Japon. On va l'avoir dans d'autres marchés. Donc, nous, c'est une technologie qu'on va étudier. Donc, j'ai pas de nouvelles annonces à vous faire aujourd'hui, mais on comprend l'importance de l'électrification dans le portfolio et plus d'annonces à faire dans le futur.
On avait pu brièvement faire l'essai de ces véhicules-là du côté du Japon, la Note et la NV également.
Il y a quelques années déjà.
Oui, c'est ça, la NV qui était disponible avec la technologie e-Power, si ma mémoire est bonne. Évidemment, je veux revenir. Je sais que ça a été une décision particulière que de ramener une sous-compacte sur le marché en 2021. L'abandon de la Micra était peut-être triste pour bien des concessionnaires. La voiture arrivait en fin de vie. C'est une voiture qui a connu un grand succès local, je dirais local, parce qu'au Québec, c'est le genre de petit véhicule qu'on s'est presque arraché, qui était très populaire. Mais évidemment, là, le véhicule devenait vieillissant. Et dans le catalogue Nissan, il n'y avait plus rien pour remplacer ça. Les Américains laissaient évidemment tomber tout ce qui s'appelait sous-compact, ou à peu près, à l'exception de la berline Versa, que le Canada avait abandonnée il y a plusieurs années. Et là qu'on décide de ramener carrément à contre-courant sur notre marché. Je suis curieux de vous entendre sur les stratégies autour de ce véhicule-là et surtout comment on va réussir à le promouvoir à côté d'une Sentra qui, pour l'instant, n'est pas bien, bien plus chère.
Très bonne question. En fait, en termes de décision stratégique, c'est vrai qu'il fallait faire une décision avec Micra. Et à l'époque où est-ce que les États-Unis ont continué avec la Versa berline telle qu'on la connaît aujourd'hui, nous, on s'est dit, le travail, on va le faire avec Micra.
Ouais.
Les dynamiques changent, on réévalue les plans d'affaires. En fait, je me souviens d'une discussion qu'on a eue ensemble dans un des salons de l'auto.
Ouais.
Et que tu nous mettais au défi, pourquoi Versa? Je pense qu'on en vendrait au Canada, et c'est vrai. Surtout au Québec, plus de 50% des Micra qu'on a vendus, ça s'est vendu au Québec, et environ 50% des Versa qu'on va vendre, ça va se vendre au Québec. Donc, c'est vraiment un marché important pour nous.
Pour l'échelle canadienne, évidemment, il faut spécifier, là, ouais.
Oui, exactement. Et tant mieux si d'autres fabricants ont délaissé cette segmentation-là, parce que ça va nous laisser l'espace pour aller chercher une plus grande part du gâteau, si on veut, dans cette industrie-là. C'est notre pied d'entrée chez Nissan. Donc, en termes de prix, de paiement, on a une certaine proximité avec Sentra, mais là, actuellement, on compare des 2021 Versa avec des 2020 Sentra dans la salle de montre. Mais dans un dans une logique d'année modèle égale, le point d'entrée pour le paiement de location ou de financement ou de prix comptant, ça va se faire vers ça avec une progression logique vers vers Sentra. Honnêtement, pour nous, c'est vraiment un modèle important et je dirais surtout pour le Québec. Et je dirais aussi que nos concessionnaires nous donnaient comme comme feedback que les parcs, les petits parcs commerciaux, que ce serait une offre intéressante pour certains de ces clients-là. Donc, on a construit un plan d'affaires où est-ce qu'on va pour le détail naturellement et on va cibler les petites compagnies qui ont besoin de voitures de cette dimension.
Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des voitures Saint-Hubert en Nissan Versa, par exemple?
Ouais, ça serait le fun, ça.
Ah, ça serait... Mais je sais pas, ils la font pas en jaune pour l'instant. Mais moi, ce que je veux aussi savoir pour la, en ce qui concerne la Versa et en ce qui concerne toutes les voitures sous-compactes du marché, si les constructeurs automobiles ont massivement délaissé ce marché-là, c'est pas, à mon sens, nécessairement parce qu'il y avait plus de demande, c'est parce que la profitabilité n'y était plus. Et même les concessionnaires Nissan nous le disaient, une Micra, on fait 200-300$ avec une voiture comme
ça. Donc, c'est pas payant pour le concessionnaire ni pour le manufacturier.
C'est ça. Puis c'est le même effort vendre une voiture à 15-16 000 que de vendre une voiture à 50 000. Donc, comment est-ce que vous allez réussir à conserver ce véhicule-là et à le rendre alléchant, même pour ceux qui le vendent? Parce qu'évidemment, n'importe quel vendeur qui pense à son portefeuille va peut-être être porté à pousser le client vers une Sentra ou vers un produit qui est un peu plus cher, le Qashqai, par exemple. Comment est-ce que vous allez convaincre les concessionnaires et ceux qui les vendent, évidemment, de pousser ce produit-là et de le garder très vivant? Parce que la profitabilité, c'est sûr qu'elle n'est pas aussi grande qu'avec un Pathfinder, là, on s'entend.
Non, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Tu pourrais dire la même chose entre un Armada et un Qashqai. Il y a une suite logique d'un produit qui est moins dispendieux à un qui est dans l'eau de l'échelle. Mais c'est vrai que la migration du client de cette segmentation-là, autrefois, s'est fait vers des Qashqai et vers des Kicks. Qui est en forte augmentation au pays.
Ouais.
Mais pour nous, c'est vraiment de garder cette offre disponible dans les salles de montre et je vous garantis à 100% qu'aucun concessionnaire qui va virer un client de bord, question de profitabilité. S'il y a une demande dans le marché, s'il y a un besoin dans le marché, la vie d'un client, la relation d'un client et son concessionnaire et son fabricant va de loin au-delà de l'achat de ce véhicule-là.
Ouais.
C'est le service après-vente, c'est la loyauté vers le prochain véhicule. Donc, c'est pas la bonne façon de vraiment regarder ce défi-là de vendre des petites voitures. Pour nous, c'est tout du volume additionnel. Pour les concessionnaires, c'est du volume additionnel. Ça rentre des gens dans nos salles de montre, ça rentre des gens dans la famille Nissan. Et les portefeuilles changent, les styles de vie changent et les besoins vont changer en conséquence. Et ce client-là qui est rentré pour une Versa va peut-être finir avec un Rogue dans 5 ans.
Puis s'il se divorce, il va peut-être revenir avec une Versa, on ne sait pas.
Voilà.
Ou deux.
Ouais, c'est ça, ou deux, exactement.
Voilà. Steve, alors que l'engouement pour les voitures électriques semble en hausse au pays, quand on regarde la Leaf, qui est le seul véhicule électrique de Nissan offert actuellement, ben on voit une dégringolade des ventes. On est à moins 45,5. J'ai précisé la virgule juste pour Antoine.
Merci.
On est à moins 45,5%. On a glissé quelques mots sur l'Ariya qu'on attend toujours, mais quelle est la vision de Nissan avec l'électrique? Est-ce qu'on veut continuer d'offrir une Leaf ou on va la laisser mourir, entre guillemets, tranquillement?
Non, du tout. On est très fiers de la Leaf. Je pourrais dire, moi, personnellement, je suis propriétaire d'une Leaf. Ma fille étant à l'université, aujourd'hui, son université se fait à la maison et ses co-ops se font de la maison, mais à l'époque où est-ce qu'elle était à l'école. Elle faisait son 30 km le matin et 30 km le soir, pas une goutte d'essence. Je te dirais, pour des gens de cet âge-là, une fois que tu goûtes à l'électrique, tu ne ressors jamais de l'électrique. Elle n'a aucune vision de passer à autre chose que d'un monde électrique dans sa vie à elle. Ceci étant dit, tout ce qui est électrique est important pour nous. Leaf demeure très important pour nous. En 2020, comme on disait en entrée de gamme, c'était une année, une grosse année pour nous. On a dû s'ajuster, on a dû prendre des décisions au niveau de l'approvisionnement, au niveau de l'emphase qu'on mettait sur certains modèles. Mais je peux dire personnellement qu'on est là pour rester avec les modèles électriques. C'est important pour nous. Le Québec est de loin le marché le plus vigoureux ouais. à l'échelle nationale, je pourrais dire, en termes de modèles électriques. Donc, je dirais qu'on va être là. On va être au rendez-vous. Leaf est vendu dans tout près de 60 pays. On a fait, cette année, on a annoncé, c'était notre 10e anniversaire de la Leaf, right? Donc, on ouais. en a vendu au-dessus de 500 000 à travers le monde. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va abandonner ce modèle-là et qu'on va délaisser surtout des marchés comme le Québec. Donc, on est là pour rester. On a un super de véhicule. Personnellement, j'en ai une. J'adore ça. Ainsi que ma famille. Donc, on est là pour rester.
Bon, là, sur un plan un peu plus passionnel, je veux vous entendre concernant un bilan peut-être des 6 saisons de la Coupe Nissan Micra et la transition vers la Coupe Sentra qui va commencer cette année. Quel est l'intérêt de Nissan de mettre autant d'énergie dans la course automobile, je dirais, locale avec des produits comme ceux-là, ce qu'aucun autre constructeur pour l'instant ne fait? Porsche va s'impliquer, mais évidemment, c'est tout naturel de le faire pour un constructeur qui vend de la voiture sport de performance à très haut prix. Je trouve ça audacieux que Nissan ait choisi d'embarquer dans cette aventure-là.
Et de poursuivre.
Mais c'est ça, c'est qu'après, pour une 7e année, on continue cette tradition-là encore. Qu'est-ce que ça apporte à Nissan Canada, une série de courses comme celle-là qui engendre quand même des dépenses considérables, on s'entend, là?
Oui, effectivement. Mais je pense que tu l'as dit dans ta question, c'est la passion, hein. On est des gens d'automobile. On est passionné par la voiture, par ce que ça peut offrir. On est entouré de gens qui choisissent un modèle, un design par rapport à la passion qu'ils ont vis-à-vis l'automobile en général. Et pour nous, les 6 années de Micra, ça a été un succès. C'était un succès, non parce qu'on a seulement vendu 50 000 unités de Micra, ça nous a aidé peut-être au niveau commercial.
Ouais.
Mais ça nous a aussi permis de connecter avec nos clients. On invitait nos clients de Micra gratuitement à venir voir chacune des courses. Les clients pouvaient faire le tour du circuit avec leur Micra.
Ouais.
On faisait des événements avec eux. Donc, c'est beaucoup plus que la course, ce qui se passe sur la course. C'est tout ce qu'il y a autour. Donc, pour
c'était
nous,
de bâtir une communauté, carrément. Là.
On a bâti une communauté. Et ensuite, lorsqu'on parle du produit, on va parler de Sentra. Donc, on migre de la Coupe Micra à la Coupe Sentra. Le choix a été facile pour nous. Sentra, c'est une grande opportunité pour Nissan au Canada. On doit se démarquer. On doit aller chercher une plus grande part de marché. On a un véhicule qui est beaucoup plus dynamique. Qui est plus bas, qui est plus large, qui se prête bien à la course. Puis vous savez, en anglais, on dit un one make series là.
Ouais.
Mais toutes les Sentra Cup sont tous pareils. Ce qui fait la différence entre celui qui termine en premier ou qui termine en dernier, c'est vraiment la qualité du conducteur. Donc chez nous, dans cette coupe Sentra ou Micra auparavant, il y a des courseurs qui sont progressés du karting. C'était vraiment leur premier circuit de course. Ensuite, ils ont migré vers d'autres séries de courses plus importantes, plus grandes, voitures plus puissantes. Mais il y a aussi une série qui sont des gens de mon âge, de votre âge, qui sont là pour avoir du plaisir. C'est une course qui est...
Quand vous dites de votre âge, faudrait spécifier parce que Germain et moi, au niveau de l'âge, c'est pas du tout pareil.
Il y a une vingtaine d'années qui nous séparent.
Même si à l'audible, ouais, ça s'apparaît pas tant que ça.
On n'a pas 19 ans, là. On n'a pas 19, 20 ans, puis on espère aller faire de la Formule 1, là, personne, non? On a peut-être passé cette opportunité-là, mais ceci étant dit, nous, ça nous permet de connecter avec nos clients, puis avec Sentra, ce qu'on est capable de démontrer, puis ce qu'on a fait avec Micra, c'est vraiment la qualité du véhicule, la durabilité du véhicule, parce que la voiture que vous allez acheter en salle de montre, c'est exactement la même voiture qui va être sur le circuit de course, à exception près qu'il y a une cage de sécurité. Naturellement, il y a une suspension qui est raffermée.
Puis des freins, bon, c'est ça.
Qui sont adaptés à la course, mais grosso modo, c'est la même voiture. Donc, c'est ça qui est notre intention.
Bon, en terminant, Steve, je me permets, on peut-tu avoir un petit scoop, un petit in sur quelque chose qui s'en vient?
On est juste entre nous.
On a-tu le droit à ça?
On est juste entre nous. Écoute, j'ai pas de scoop pour vous ce matin. En fait, Antoine, je pense que tu en as vu autant, sinon plus que moi, au Salon de Tokyo en 2019 et autres voyages au Japon. C'est une période qui est très excitante pour Nissan. On parlait de 10 modèles en 20 mois. C'est ce qu'on pouvait partager. On est tout prêt à 2021 là qu'on va avoir nos 10 modèles en 20 mois dans nos salles de montre ici au Canada. Pour nous, Nissan, on s'en va sur la bonne direction, la bonne voie. On est très excités sur l'année qui s'en vient.
Merci beaucoup, Steve, d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, bonne chance pour la suite en espérant que les ventes soient en hausse. Et juste un petit mot en terminant, je pense qu'il faut quand même souligner que Aria, évidemment, c'est un nom qui, au Québec, sonne un peu bizarre, mais allez voir comment ça s'écrit. Vous allez voir que c'est pas exactement le mot que vous connaissez. Parce qu'il y a évidemment la nomenclature des véhicules
n'est pas
étudiée à l'international et il n'y a personne qui pouvait se douter de ce que Aria voulait dire en français.
Au Québec.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup, Steve.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Chaque semaine, Antoine, on reçoit des dizaines, peut-être même des centaines de questions du public. Donc, on va prendre le temps de répondre à quelques-unes d'entre elles. On a Frédéric ici et qui pose une question et ça va comme suit. J'ai entendu dire que les moteurs 3,5 litres ne sont pas des bons moteurs pour les Ford F-150 et que je devrais privilégier le 5 litres. En 2016 et 2018, comme véhicule d'occasion, son utilisation, c'est tirer une tente roulotte 15 à 20 000 km par année. Est-ce qu'il doit choisir justement le moteur 5 litres ou le 3,5 litres qu'on lui a déconseillé pourrait faire l'affaire?
15 à 20 000 km de remorquage par année. Effectivement, le moteur 3,5 litres, c'est un moteur qui a connu des ratés, qui s'est amélioré récemment. C'est un moteur qui consomme énormément lorsqu'on remorque avec ça. On s'en sort pas. Et c'est peut-être un peu plus capricieux que le moteur 5 litres. Ce qui me titille un peu dans cette question-là, c'est qu'on remorque de 15 à 20 000 km par année. Une roulotte, on ne connaît pas le poids de cette roulotte-là, mais j'imagine qu'on n'est pas dans une tente roulotte. Ultra-léger, là. Donc, si on est dans les zones de 5, 6, 7 000, 8 000 livres peut-être, moi, j'aurais envie de dire, avez-vous pensé à l'option du moteur diesel?
Mm-hmm.
Parce que la beauté du diesel, bien que le coût d'achat soit peut-être un peu plus élevé, c'est que au niveau du remorquage, ça consomme, plus que lorsqu'on roule à l'aige. Mais pour vous donner une idée, moi, j'ai remorqué 6 600 livres avec un moteur diesel Ford F-150 sur 4 000 km. J'avais fini ma course à peu près 13 litres au 100 avec une charge de 6 600 livres. Évidemment, ce n'était pas une grosse remorque. Donc, au niveau de la sensibilité au vent, c'était pas aussi fort qu'avec une grosse roulotte.
Ouais.
Mais si j'avais eu un moteur 3,5 EcoBoost, j'aurais roulé à du 20, 22, 24 facilement. Donc, moi, je recommanderais d'emblée le moteur Powerstroke diesel 6 cylindres en considérant, bien sûr, qu'il y a un coût d'entretien qui vient avec, mais sur le plan de la rentabilité et de l'agrément, ça peut être intéressant comme mécanique. Sinon, oui, le 5 litres est un bon moteur, mais on a connu des petits problèmes avec le 5 litres de surconsommation d'huile.
Duel, oui.
Ça, faut pas l'oublier. Et tout dépendant du poids de votre roulotte, peut-être que le moteur 2,7 pourrait faire l'affaire, mais évidemment, faut pas que ce soit trop lourd. Mais en ce qui me concerne, si vous êtes dans une remorque qui pèse 5000 livres ou moins là, autour d'eux, j'irai avec le diesel pour commencer.
Bonne suggestion. On a Sylvie qui possède une Sion TC 2015. Elle aime le style, le format et la conduite de cette voiture-là. Elle se demande par quoi elle pourrait la remplacer.
C'est intéressant parce que évidemment, des petits coupés sport ou à tendance
c'est
sportive,
disparu, là.
Il n'y en a plus beaucoup. En 2020, il y avait encore la Hyundai Veloster qui était disponible en plusieurs versions. Il y avait le coupé Civic qui était disponible en certaines versions. C'est disparu et je pense que l'option la plus viable actuellement, c'est peut-être d'aller vers une GTI. Tout simplement. Ouais. Plus cher, évidemment, que la Sion TC.
Performante aussi.
Plus performant, mais c'est vraiment une petite voiture intéressante parce que je comprends qu'on roule cette voiture-là à l'année. Donc, d'opter pour une Subaru BRZ, ben, l'hiver, c'est pas génial. Mais évidemment, c'est un marché qui est en voie de disparition, littéralement. Mettre la main sur une Veloster usagée d'une année ou deux, ça peut être vraiment un bon parti. Ça, c'est vraiment une voiture à découvrir. Évidemment, vous pourriez aller vers la version N, mais là, c'est inconfortable.
Plus cher, c'est plus radical. Oui,
exactement.
Oui.
Et sinon, ben, il y a toujours l'option d'une Mini Cooper. Une Mini Cooper S, dont la fiabilité s'est beaucoup améliorée, mais vous n'aurez pas, évidemment, les coûts d'entretien de votre Sion TC qui était à peu près rien. Là, vous êtes chez Mini, attendez-vous à une facture un peu plus salée. Sinon, ben, peut-être trouver un coupé Civic ou même un coupé Civic SI âgé d'un an ou deux, parce qu'on a cessé de les fabriquer pour 2021, mais peut-être qu'il reste encore des 2020 en inventaire, il faudrait vérifier. Ça pourrait vraiment être une belle formule, mais c'était la dernière année du Civic coupé en 2020.
Intéressant, Antoine. Dernière question, on a Yannick qui possède un Kia Sorento 2019 et il s'est acheté une roulotte de 3600 livres avec l'idée de la remorquer avec le Sorento. Par contre, il n'a pas pu installer de barre de torsion sur le Sorento et désire changer de véhicule. Okay. Donc, il a un œil sur le Dodge Durango GT 2019. Est-ce qu'il pourra remorquer la dite roulotte et sans avoir d'ennui?
Les yeux fermés. C'est un véhicule qui est excessivement efficace dans cette formule-là. Un Durango GT avec le moteur V6 Pentastar, c'est une mécanique qui est très fiable. C'est un véhicule qui s'est beaucoup amélioré par rapport au passé. On a amélioré plusieurs composantes. Est-ce que je vous dire que ça va être aussi fiable à long terme qu'un Toyota Highlander? Peut-être pas, mais c'est
plus
drôlement
robuste,
plus compétent. Ouais. C'est drôlement plus compétent que bien d'autres véhicules dans le segment pour remorquer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se procurer ces véhicules-là à prix très raisonnable sur le marché d'occasion. J'imagine que si vous ciblez un 2019, c'est parce que vous avez déjà vu un véhicule. Alors oui, c'est une option super intéressante. Et je comprends ce que monsieur veut dire au niveau du Kia Sorento. C'est que le véhicule peut être déstabilisé selon le type de remorque qu'on va utiliser. Et ça devient un problème. De toute façon, dites-vous que si votre Sorento 2019 n'est pas en mesure de remorquer, le nouveau va le faire encore moins.
Ça, oui, c'est parce clair. Que la capacité de remorquage a été
oui, réduite. Et on a un peu changé la vocation du véhicule, tout simplement.
Voilà. Bon, Antoine, merci pour sa réponse.
Plaisir.
Une bonne fin de semaine à toi.
Oui, la semaine prochaine, tu nous parles de la Sonata hybride la semaine prochaine.
Sans faute.
Cube Radio.